Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons méditer sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis méditer, c'est-à-dire pas seulement contempler, mais réfléchir pour en tirer les enseignements en ce qui nous concerne. Saint Thomas d'Aquin nous montre clairement que la résurrection de notre Seigneur fut voulue par Dieu pour deux raisons. Une première raison, la dignité du Christ. Il n'aurait pas été digne que notre Seigneur ne ressuscitât pas. Et non seulement qu'il ressuscite, mais qu'il soit glorifié, évidemment. Et la deuxième raison, c'est notre édification, notre vie chrétienne, c'est pour nous. Avant d'entrer dans ces deux considérations, je vais vous livrer très rapidement les conclusions théologiques de saint Thomas sur la résurrection, parce que cela répond probablement à des questions que vous pouvez vous poser. Et il est bon de montrer la réalité de la résurrection. Alors cette réalité de la résurrection, saint Thomas ne la prouve pas. Il faut que ce soit les modernistes qui mettent cela en cause. Il faut arriver à 2000 ans d'église, 2000 ans de vie chrétienne pour avoir des chrétiens qui osent mettre en cause la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fait est établi par les témoignages les plus sérieux, ne serait-ce que celui de saint Thomas qui a mis ses mains et ses doigts dans les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, la preuve de la résurrection, tout en étant historique, est en même temps une question de foi. Ce qui nous donne la certitude de la résurrection, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu, ce sont les évangiles, paroles du Saint-Esprit, paroles que nous recevons en nous-mêmes par la foi qui nous éclaire et qui font que nous reconnaissons la parole de Dieu comme nous reconnaissons la parole de notre Père. Lorsque notre Père nous parle, même si nous ne le voyons pas, nous savons que c'est lui qui nous parle. Lorsque notre Mère nous parle, même lorsque nous ne la voyons pas, nous savons que c'est elle qui nous parle. Eh bien, lorsque Dieu nous parle, même lorsque nous ne le voyons pas, nous savons que c'est Dieu qui parle, parce qu'il y a une connaturalité, c'est-à-dire une ressemblance, une communion, une participation telle que, instinctivement, naturellement, ce qui se ressemble se reconnaît. Saint Thomas, donc, ne prouve pas la réalité, mais il pose la question, notre Seigneur est-il ressuscité avec un corps véritable? C'est important cela. Alors oui, la réponse est oui, c'est un corps véritable, ce n'est pas une apparence de corps. Et saint Thomas va très loin, et il dit, notre Seigneur, comme nous-mêmes plus tard, ressuscita avec un corps de chair, qui va avoir des qualités glorieuses, mais qui demeure un corps humain, une nature humaine. Nous réétudierons cela plus tard, lorsque nous arriverons à la fin de nos sermons sur le catéchisme et la théologie, et que nous en arriverons aux fins dernières, et que nous étudierons notre propre résurrection. Oui, évidemment, tout cela est un petit peu mystérieux, mais c'est justement pour cela que je vous donne les conclusions de saint Thomas d'Aquin. Un corps véritable qui est affranchi des conditions de la vie ici-bas, mais qui conserve toutes ses facultés, toutes ses puissances de la vie d'ici-bas, qui est un corps glorieux, glorifié, c'est-à-dire qui est totalement entre les mains de l'âme, si on peut parler des mains de l'âme, qui est totalement soumis à l'âme, qui va donc être assumé par l'âme bien parfaitement, Et l'âme le glorifie, l'âme le rend agile, l'âme le rend subtil, l'âme le rend glorieux surtout. C'est-à-dire qu'il rayonne la gloire de l'âme et qu'il possède autant qu'un corps matériel peut le posséder, il possède les qualités de l'âme spirituelle et glorieuse. Mais ça n'est pas un corps spirituel. Un corps spirituel, ça n'a pas de sens. C'est un corps spiritualisé, si vous voulez, mais pas un corps spirituel, c'est-à-dire que c'est un vrai corps. Et il y a d'ailleurs une question à propos des plaies de notre Seigneur, que notre Seigneur a gardé dans ses mains, son côté. Un corps ressuscité, normalement, ressuscite avec toute son intégrité. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le sang de notre Seigneur qui a coulé durant la Passion a été réuni au corps lors de la résurrection. C'est-à-dire que le corps a été réuni à l'âme. La divinité n'avait jamais abandonné ni le corps de notre Seigneur, ni l'âme, ni le sang de notre Seigneur. L'union de la divinité et de l'humanité était restée en Jésus-Christ. Mais le corps et l'âme étaient séparés. Et Jésus-Christ va donc provoquer la réunion du corps et de son sang avec son âme. Le sang revient avec le corps dans la résurrection. C'est très important, puisque, et ça c'est deux fois, puisque nous communions aujourd'hui au corps et au sang de Jésus-Christ. Si le sang n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas communier au corps et au sang de Jésus-Christ. Puisque le corps ressuscité est un corps parfait, il aurait été normal que notre Seigneur n'eût plus, ne montra plus les traces de la crucifixion et donc les cicatrices. Et saint Thomas nous répond si, parce que c'est vraiment le grand objet de sa gloire, c'est la marque de sa gloire. Sa gloire est d'avoir donné, par amour de son Père, sa vie à Dieu pour le salut des hommes. Et il était normal qu'il en gardât la trace dans son corps glorieux. Et saint Thomas nous dit, eh bien, ce corps est un peu blessé, si l'on peut dire, et il perd un tout petit peu d'intégrité, mais il gagne en gloire, car ses cicatrices sont la marque corporelle de la grande œuvre de notre Seigneur. Je diviserai ce sermon en deux. Les raisons de la résurrection, et ensuite la causalité de la résurrection. Je vous expliquerai ce que veut dire la causalité. Les raisons de la résurrection, la première, c'est la dignité du Christ. Ça, nous le chantons le Vendredi Saint, enfin toute la Semaine Sainte, jeudi, vendredi, samedi saint, à tous les offices. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et saint Thomas, pour renforcer encore l'argument, cite le Magnificat. Dans le Magnificat, la Sainte Vierge affirme que Dieu exalte les humbles, qu'il relève les pauvres. Il est évident, et ailleurs saint Thomas le prouve encore plus profondément, il est évident que Dieu se doit, d'une certaine manière, de relever celui qui s'est humilié pour lui. Il se doit de le relever d'autant plus qu'il s'est humilié, et d'autant plus, évidemment, en fonction de la dignité de celui qui s'est humilié. Pour notre vie chrétienne, saint Thomas donne quatre raisons. Tout d'abord, l'instruction de notre foi. Par la résurrection, notre foi en la divinité de Jésus-Christ se trouve confirmée. Et il cite saint Paul, « Quoiqu'il ait été crucifié en raison de sa faiblesse, il vit, il a la vie, cependant, par la force de Dieu. » La résurrection prouve la force de Dieu là où la passion avait prouvé que Dieu s'était abaissé à notre faible condition humaine. Deuxièmement, le relèvement de notre espérance. En voyant ressusciter le Christ qui est notre tête, nous espérons ressusciter nous aussi. Nous savons que nous ne sommes pas faits pour cette vie ici-bas, et c'est là un des aspects extraordinairement beaux et simples de l'incarnation, que d'avoir prêché par les mystères des choses très élevées qui sont mises à la portée même des plus simples. Quiconque voit le Christ ressuscité sait que nous sommes appelés à être ressuscités nous aussi avec lui. Nous aimons trop le Christ, et le Christ nous aime trop pour que nous nous réunissions à lui avec notre âme, mais que notre âme ait perdu notre corps. Cette gloire du Christ, bien sûr le corps n'est pas nécessaire, mais il va participer à la gloire de l'âme. Et le bon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et du moment qu'il nous a donné un corps, il est normal, ce n'est pas rigoureusement nécessaire, mais c'est normal que dans sa bonté, dans sa sagesse, il veuille que l'âme qui s'est servie du corps, le corps qui a été l'instrument de l'âme, soit réunie de nouveau au ciel. Et pour nous, ce sera évidemment un sujet de contentement que de voir au ciel notre Seigneur, et pas seulement d'avoir la lumière, je veux dire de le voir de nos yeux, de voir de nos yeux de chair la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et pas seulement de le voir dans la vision béatifique, qui évidemment dépasse infiniment, malgré tout. La troisième raison de la résurrection du Christ pour notre vie chrétienne, c'est notre formation morale. Là, je vais insister un petit peu, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Et la quatrième raison, c'est l'achèvement de notre salut. En mourant, il a supporté les maux afin de nous délivrer. En ressuscitant, il a été glorifié afin de nous pousser vers le bien. Selon cette parole de saint Paul aux Romains, il s'est livré pour nos péchés, il a ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire qu'il nous attire. Et cela m'introduit dans la deuxième partie de ce sermon, la causalité de la résurrection. C'est un mot un peu savant, mais qui est très simple en réalité. Pourquoi j'utilise le mot savant ? Parce que ce sont des choses dont on ne parle pas à la légère, et il faut dire précisément les choses de Dieu. Donc pourquoi je pose la causalité ? S'il y a cause, il y a effet. Donc demander quelle est la causalité, c'est demander quels sont les effets. Dès que je parle d'effets, évidemment, tout de suite vous êtes beaucoup plus intéressés parce que des effets, ça vous concerne. Alors comment les effets arrivent-ils ? Ils n'arrivent pas n'importe comment, comme ça. Non, la sagesse de Dieu, elle est passée par l'incarnation. Qui dit incarnation dit chair, vous voyez ? C'est très concret, incarnation. Hein ? C'est la chair. Elle est passée par l'incarnation, elle est passée par la chair. Et il est normal que nous nous posions la question, est-ce que cette chair a simplement servi à notre Seigneur pour mériter, ou est-ce qu'elle l'utilise pour produire en nous des effets ? Alors, vous avez trois types de causes, en ce qui nous concerne là, parce que je ne vais pas vous faire la théorie des causes telle qu'on la trouve en philosophie, je prends celle qui nous concerne. La cause méritoire, c'est-à-dire mériter, une cause méritoire, par exemple, le travail fait par un ouvrier est cause méritoire de son salaire. Il a mérité le salaire. Ça produit un effet qui est un droit au salaire. Ensuite, il y a la cause exemplaire, c'est-à-dire le modèle. Vous avez un peintre qui voit un très beau paysage, ça va lui servir d'exemplaire pour le tableau qu'il va réaliser. C'est bien une cause, parce que c'est cela qui déclenche. Ça déclenche le tableau. « Oh, ce que c'est beau !» dit le peintre. Et ça produit un effet. Et donc il est normal que les belles choses de Dieu déclenchent quelque chose, comme étant un modèle. Et troisièmement, cause efficiente instrumentale. Cause efficiente, c'est celle de celui qui fabrique, qui fait. On fait quelque chose. L'artisan est cause efficiente de la statue. Voilà. Mais là, c'est une cause efficiente, nous le verrons, instrumentale. Alors, la cause méritoire, Jésus-Christ, après sa mort, ne mérite plus. Pourquoi ? Ben parce qu'il a totalement mérité et que maintenant, il est en possession de la récompense. Avant sa mort, tous ses actes étaient méritoires, depuis sa naissance, tous les actes libres, tous les actes, et tout ce qu'il a fait, il l'a fait volontairement et librement. Sa passion nous a mérité le salut, le fait qu'il meure mérite le salut. Mais une fois qu'il est mort, il est en possession du mérite et de la récompense que Dieu lui a donnée, et il ne mérite plus. Nous-mêmes, après la mort, nous ne méritons plus. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Il reste donc la cause exemplaire et la cause efficiente. La cause exemplaire, elle est très importante. Jésus-Christ nous a fait mourir au péché et vivre pour Dieu. Dans sa résurrection, Jésus-Christ est totalement détaché des conditions de la vie d'ici-bas, quoiqu'il vive encore la vie ici-bas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté pour vous dire que c'était un vrai corps, quoiqu'il soit glorifié, quoiqu'il possède les qualités que lui donne l'âme, ça reste un vrai corps. Parce que ce vrai corps est un modèle. Et il est un modèle pas seulement pour les corps glorieux, lorsque nous ressusciterons, il est déjà un modèle pour nous ici-bas, parce que notre corps est déjà possédé par l'âme. Il est possédé évidemment d'une façon très imparfaite, d'une façon très terrestre. Malgré tout, nous savons que nous qui sommes appelés à la vie éternelle du ciel, le modèle de Jésus-Christ n'est pas seulement pour là-haut, il est déjà pour ici-bas, et ce corps glorieux qui s'affranchit des conditions de vie d'ici-bas est un modèle pour notre vie terrestre et pas seulement pour notre vie céleste. Alors si nous voulons suivre cet exemplaire, nous devons d'abord être morts au péché mortel, morts au péché véniel de propos délibérés, mort au péché véniel qui nous échappe, il faut essayer de mourir au péché qui nous échappe. Il faut que nous soyons également morts au monde. Saint Paul le dit, ça. Le monde m'est crucifié, je suis crucifié au monde. On est mort au monde. Je vous ferai des sermons là-dessus. Parce que les persécutions que nous sentons bien être voulu par le mondialisme. Ces persécutions doivent être vécues chrétiennement si vraiment nous cherchons à mourir au monde, nous devons nous réjouir comme le firent les martyrs. Non pas tendre le dos, non pas reculer. Et donc nous devons être détachés de l'esprit du monde, et même dans toute la mesure du possible, détachés des contraintes du monde. Je vais vous donner un exemple, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Ah oui, non, j'ai pas beaucoup de temps, c'est dommage. Enfin, ça vous intéresse ce que je vous dis. Le Christ, par exemple, a pris des repas avec ses disciples. Il s'est nourri véritablement, quoiqu'il n'en avait pas besoin. Eh bien, il faudrait, nous, que lorsque c'est utile, nous nous nourrissions des choses du monde, mais que nous n'en ayons pas besoin. Je ne parle pas de la nourriture, évidemment, le pain dont nous avons besoin. Malgré tout, il y a beaucoup de choses ici-bas dont nous n'avons pas besoin. Il y a énormément de biens matériels dont nous n'avons pas besoin, qui peuvent être utiles, mais dont nous n'avons pas besoin. Et il faut apprendre à nous en détacher, c'est-à-dire à être affranchi du poids du monde. Le monde pèse sur nous. Les moyens modernes pèsent sur nous. Il faut nous affranchir des moyens modernes. Mort au monde, c'est les béatitudes. Je ne vais pas vous faire tout de suite un sermon sur les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui ont soif, bienheureux les doux, et la dernière, le sommet des béatitudes, bienheureux ceux qui sont persécutés. C'est la huitième qui est le sommet des sept autres. Vivant pour Dieu, c'est l'esprit de foi. Je vais vous en donner deux exemples. Celui de saint Dominique Savio, lorsque vous lisez la vie de saint Dominique Savio par saint Jean Bosco, surtout une vie de saint écrite par un saint, évidemment, tout de suite l'esprit est beaucoup plus visible. Saint Dominique Savio était un enfant, un jeune, quand il est mort à 15 ans, qui était pleinement un élève de l'oratoire, qui jouait dans la cour de récréation, et tout le monde se rendait compte en même temps que c'était un petit ange. C'était une sorte d'ange incarné. Je ne parle pas de la fois où il est resté en contemplation devant le Saint-Sacrement, ayant sorti complètement de ses sens et comme dans un rapte. Non, je parle dans la cour de récréation, c'était un ange. Un ange de Dieu qui jouait avec ses camarades, un ange de Dieu qui vivait au ciel, qui vivait en présence de Dieu parce qu'il était éclairé par l'esprit de foi. Et ce mot esprit de foi vient de Mgr Lefèvre. Et Mgr Lefèvre, c'était la même chose. Dieu sait si nous avions un homme concret, alors plus concret encore que saint Dominique Savio, qui avait pensé à la forme de nos tables de chevet près du lit pour que nous ne risquions pas de nous blesser au séminaire pendant la nuit en nous retournant un peu vivement. Vous voyez, c'est vous dire s'il était contraire. Et en même temps, un homme de Dieu, oui, tout le temps devant la pensée de Dieu. Nous n'avions pas intérêt, un malheur à nous, si nous sortions devant Mgr Lefèvre des considérations terrestres déplacées, nous étions vite remis en place par rapport au ciel et au bon Dieu et à la foi. Très vite. Et enfin, je termine en vous disant que la résurrection est cause efficiente, instrumentale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contact, et je voudrais surtout vous parler de la communion. La communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ est une communion à Jésus-Christ ressuscité, pas seulement à Jésus-Christ mort. J'y reviendrai plusieurs fois parce que la messe, la communion, c'est la participation à la messe. La messe et la communion, c'est la même réalité. Participer à la messe et communier, c'est la même réalité. Alors on peut participer sacramentellement, on peut participer spirituellement, mais même si on participe spirituellement, c'est une communion spirituelle à une messe spirituelle. Eh bien la communion nous unit au passé, nous dit saint Thomas, c'est-à-dire à la mort de Jésus-Christ, mais elle nous unit également à la vie de Jésus-Christ, elle nous communique la vie de Jésus-Christ. Et en cette période de confinement, où malheureusement vous ne pouvez pas communier sacramentellement, vous pouvez communier spirituellement, et lorsque vous communiez spirituellement, vous ne faites pas que de vous unir à la mort de Jésus-Christ, vous vous unissez aussi à sa résurrection. Et voilà pourquoi une des meilleures communions spirituelles, c'est le rosaire, parce que dans le rosaire, par les mystères douloureux, vous communiez à la passion et par les mystères glorieux, vous communiez à Jésus ressuscité, au corps et au sang de Jésus ressuscité. Et même à distance, ce corps et ce sang peuvent produire leur effet comme des instruments et la communion spirituelle déclenche, si je puis dire, l'effet à distance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je termine en vous lisant une très belle prière écrite par Don Marmion, qui est une parmi beaucoup d'autres des formules de communion spirituelle, et je vous la donne sur le site, je vais vous remettre le texte. C'est vous, ô divin ressuscité, qui venez en moi, c'est vous qui venez en moi, ô Christ ressuscité. Vous qui, après avoir expié le péché par vos souffrances, avez vaincu la mort par votre triomphe. Vous qui, désormais glorieux, ne vivez plus que pour votre Père, ne vivez plus que pour votre Père. Venez en moi pour réduire à néant l'œuvre du diable. Venez en moi pour opérer la destruction du péché et de mes infidélités. » Ça, c'est l'aspect mort au péché. Et la suite. « Venez en moi augmenter le détachement de tout ce qui n'est pas à vous. Venez me rendre participant de cette surabondance de vie parfaite qui déborde à présent de votre sainte humanité. » Et c'est très riche. La sainte humanité, la vie glorieuse déborde. Et nous demandons à Jésus-Christ par la communion sacramentelle ou spirituelle, et nous y participions. Et le résultat, je chanterai alors avec vous un cantique d'action de grâce à votre Père, qui vous a, comme notre chef et notre tête, il vous a couronné en ce jour de gloire et d'honneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.